voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Petitot rencontre Emmanuel Todd. Ce soir, l'ascension par la chute.
Bonsoir Emmanuel Todd.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes historien, démographe, anthropologue, et que nous cherchons au fil de nos entretiens à découvrir comment et pourquoi vous êtes penché votre vie durant sur l'organisation des systèmes familiaux et les conséquences que celle-ci a sur nos systèmes politiques. Nous évoquions hier en fin d'entretien la perspective de l'été 75, qui va vous conduire en Hongrie et qui va donner naissance quelques temps après à votre premier ouvrage, La Chute Finale. Le livre qui va annoncer au monde que la sphère soviétique n'en a plus pour longtemps, alors que l'immense majorité des intellectuels anticipent soit une fin du capitalisme, soit un renforcement de la puissance soviétique. Est-ce que vous avez 25 ans à l'époque, je le rappelle? Emmanuel Todd, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce livre? Déjà, ses coulisses, j'ai envie de dire.
Eh bien voilà, j'étais dans un jardin, je crois que mon père était là, traîné chez des amis. Et puis j'étais là, puis il y avait un autre mec de mon âge que je ne connaissais pas, qui s'appelait Thierry Morax, qui est décédé très très jeune d'un accident. Et donc il me dit, ben qu'est-ce que tu fais là? Et donc je lui dis, ben c'était l'été, hein, donc ben je sais pas, ma femme vient de me plaquer là, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Et toi? Il me dit, ah ben je viens de rater la grègue de lettres. Puis je lui dis, ben, j'ai vu chez des amis une jeune hongroise quand même très bien. T'as pas envie d'aller à Budapest? Je connaissais pas le mec, hein. Et il était très sympa. Et puis on est parti à Budapest en fait. Et donc alors en termes sentimentaux, etc., c'était le bide total. Hein. C'est vraiment, c'est le bon, hein, ni le premier ni le dernier. Mais par contre, on est tombé dans un milieu de jeunes hongrois. Enfin, la fille en question était vachement sympa. C'est-à-dire, elle nous a présenté à tous ses copains. Et on s'est marré pendant 15 jours en Hongrie, comme jamais. Enfin, vraiment, j'étais pris dans des soirées orgiaques, sur les bords du lac Balaton. Je suis revenu à Budapest un jour en train avec Georges Conrad, qui est un grand écrivain. Qui nous a logés chez lui. Je me souviens qu'il a dû casser un carreau parce que sa vieille maman n'entendait pas. Vraiment, c'était Budapest, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas la vision concrète, c'est toujours pareil. C'est comme les Américains au Chef, c'est la vision réelle, on est dans des trucs. Et voilà, donc je suis tombé d'abord amoureux de la Hongrie, faute de tomber amoureux d'une Hongroise. Parce que quand même les Hongrois sont assez allumés. Et je reste d'ailleurs, je trouve qu'on continue d'être trop dur avec les Hongrois. Je n'aime pas du tout les critiques aveugles et sans réflexion du régime actuel. Pas parce que j'aime le régime actuel, mais parce que je trouve que la Hongrie vaut mieux que ça, en fait, en termes de réflexion. Et donc, voilà. Et je sais pas, j'ai eu le sentiment... je pense que j'étais surtout surpris parce que c'était juste normal.
Oui, c'est la première fois que vous passez-moi c'est l'expression, mais derrière le rideau de fer.
Le rideau de fer. Peut-être que si j'avais été en République démocratique allemande, que j'ai vu par la suite juste après la chute du mur, et qui était très spéciale comme ambiance, qui avait une belle ambiance totalitaire, ou peut-être que j'avais vu une ambiance totalitaire russe, peut-être que j'aurais pas senti le truc. Mais c'était tellement évident qu'en Hongrie, c'était juste mort dans la tête des gens, le communisme. Voilà. Alors à part ça, ensuite, il y a eu un deuxième hasard. Je suis rentré à Paris. Et puis déjà, l'une de mes habitudes, c'était de traîner à la bibliothèque de l'Institut National d'Études Démographiques. Et puis je suis tombé à chercher des chiffres. J'adore chercher des chiffres, des trucs bizarres. J'ai toujours passé ma vie à chercher et trouver des chiffres marrants. Et là, je suis tombé sur la hausse de la mortalité infantile russe. Ukrainienne et autres.
Vous décidez comme ça, d'ouvrir, consulter des statistiques.
J'avais les statistiques. Et puis, c'est surtout, c'est Lazlet qui m'a appris ça. Mais avant même Lazlet, c'était un prof français qui s'appelait Jacques Dupaquier, qui m'avait appris à voir derrière les statistiques, de ne jamais perdre de vue que c'était des gens. Je sais pas comment dire que c'était juste une statistique, c'est juste une agrégation de gens qui existent vraiment. C'est un truc de rapport charnel. Quand on parle de statistiques démographiques, évidemment. Je veux dire, les statistiques de production de Godas, c'est tout à fait autre chose. Hein. Les statistiques financières, c'est autre chose. Et donc, je farfouille. J'aime bien. Mais là, je sais que dans les jours qui viennent, je vais aller farfouiller, comme je travaille sur les systèmes familiaux aztèques, incas et autres, je vais aller farfouiller sur l'évolution des taux d'homicide au Pérou et au Mexique, par curiosité, pour voir si ça continue à être raccord, s'il n'y aurait pas un petit rapport, quelque chose qui serait resté de l'anthropophagie aztèque, je ne sais pas, hein, pour déconner. Mais bon,
donc. Mais là, quand vous revenez de Hongrie, et donc vous regardez des statistiques sur l'Union soviétique.
Bah non, mais je regardais je ne sais plus comment, c'est un truc qui était là, en usuel, à la bibliothèque de l'INEN. Et par contre, quand j'ai vu ce truc, comme je suis quand même, même si je ne suis pas un gros technicien, mais je suis quand même un peu démographe de métier. Et puis quand on a fait de l'histoire avec des gens comme le roi Ladurie, ou quand on a lu les bouquins de Vauvel ou de Chaunu, on voit derrière, on est presque entraîné à chercher derrière un indicateur statistique ce qui se passe vraiment. Donc par exemple, l'un des trucs que j'avais appris en démographie historique, c'est on regarde si à une certaine époque les gens, il y a une chute du nombre des naissances, ce qui veut dire que 9 mois avant, ça veut dire que les gens respectaient sexuellement le carême. C'est le genre de truc que j'avais appris en fait en tant qu'étudiant. Et puis si la fécondité baisse, ça veut dire que les gens font attention, enfin à un certain âge en tout cas, et donc ça veut dire que les mentalités évoluent. J'avais tout ça, c'est ce que j'avais appris comme 18e-iste en fait. Et donc je vois, alors la mortalité infantile c'est autre chose, c'est plus des questions de niveau de vie, de mode de vie, de système médical, mais j'ai immédiatement senti que c'était énorme, j'étais même... J'ai regardé l'évolution de tous les autres taux de mortalité infantile, dont la chute s'était accélérée dans tous les pays occidentaux.
Pardonnez-moi Emmanuel Todd, il n'y a pas encore de commande d'ouvrage à ce moment-là. Vous y intéressez.
Mais il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien, c'est juste, ça m'intéressait. Et puis je me souviens, j'avais mon meilleur copain s'appelle Alexis, et lui, il était encore à l'UEC, je crois. Il m'énervait. Et moi, j'avais complètement décroché parce qu'en Angleterre, j'étais arrivé à la conclusion que le communisme n'était pas du tout une idéologie en général, mais un truc ethnologique des gens du continent. C'est pas comme une coutume bizarre. C'était la vision anglaise du truc. Hein. Donc, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais écrire mes idées sur ce qui se passe. Et je me suis mis à écrire la chute finale. Parce qu'il m'énervait, parce qu'Alexis m'énervait. En fait, je me souviens que ça, c'est toujours mon meilleur copain, hein, c'est mon double. Et c'est devenu un livre tout seul, qui, au regard des méthodes du genre d'histoire que j'ai appris de mes maîtres, est extrêmement orthodoxe. C'est pas un livre qui a eu une... Donc j'ai dit, je vais travailler sur la Russie comme si c'était un pays du passé où on a très peu de données. Donc il y a une partie analyse économique, une partie étude des mentalités, c'est les plans classiques de l'école des annales, économie, mentalité, voilà. Et puis j'ai terminé ce truc-là, et puis je l'ai montré à mon père, il m'a dit « mais c'est très intéressant, je vais le montrer à Revel ». Ah oui, je suis pas...
Jean-François Revel.
Oui, je me suis pas fait tout seul, vous voyez, je veux dire, quand je parle de ce qu'était, je dis « le roi Ladurie m'envoie à Cambridge, je fais par hasard ou sans le savoir un manuscrit, mon père le file à Jean-François Revel, qui dit « je ne le lirai que quand ça sera tapé proprement ». Donc mon père m'a payé une frappe au propre quand même, vraiment, il ne m'a pas lâché sur ce coup-là. Et puis le bouquin, Revel dit « c'est très bien », il l'a donné à lire à Max Gallo, Max Gallo a dit « je m'en souviens encore, c'est plus qu'à publier ». Et puis il l'a publié, mais je n'en revenais pas, d'autant plus que... J'avais, comme j'ai dit, j'étais très noué et j'avais au lycée de grandes difficultés à écrire. Je veux dire, j'avais des notes, j'avais toujours 10-11 en dissertation.
Il n'y a pas eu un plaisir d'écriture.
Voilà. Si, et en fait, c'était provoqué par un truc extrêmement bizarre, c'est que j'avais eu tellement de mal en anglais à écrire ma thèse, à apprendre l'anglais, qu'en fait... Quand j'ai écrit la chute finale, je revenais dans ma langue maternelle. Et donc, c'était pas très bien écrit, mais j'ai éprouvé une sorte de sentiment de liberté, de facilité. Waouh, c'est juste trop top d'écrire dans la langue qu'on maîtrise vraiment. Donc, j'ai eu un vrai plaisir de. Mais alors que l'écriture m'a jamais intéressé en tant que tel, j'ai jamais été. Mais donc, l'un des trucs que je dois à Cambridge et à l'Angleterre, c'est la langue française. De même que j'ai découvert à Cambridge à quel point j'étais français, parce que j'étais très choqué par les attitudes de classe. Donc on était tous des gamins, puis on avait des dames qui faisaient le ménage, qu'on appelait des bedos, tu vois, qui nous appelaient sœurs. Monsieur, mais vraiment, ça m'était insupportable. C'était insupportable. Et je me suis dit que ça m'était insupportable en tant que Français, en regard de l'idéologie familiale de « on est tous fait pareil ». Voilà. Donc, mais bon, pour la langue, c'est pareil. C'est à mes difficultés avec l'anglais que je dois ma réconciliation avec le français.
Là, on est sur la forme du livre. Je voudrais revenir un instant sur le fond, avec toujours ce mystère qui peut étonner quand on annonce, à terme et 15 ans avant, la décomposition de la sphère soviétique. Comment on fait sans y mettre les pieds? Je me souviens d'un exemple, c'est qu'à un moment, vous parliez du taux d'équipement en voiture d'une certaine partie de la population pour ouais. envisager la chute du KGB.
Mes véritables certitudes étaient démographiques. C'est-à-dire il y avait la hausse du taux de mortalité infantile qui, à elle seule, disait que le système partait en couille. Ça suffisait, en fait. C'était la bombe atomique. Hein. Et puis, il y avait ce que j'avais appris à propos de la Révolution française, que la Révolution française avait été précédée d'un début de chute de la fécondité, que la chute de la fécondité, c'était l'évolution des mentalités, c'était l'émergence d'une certaine forme de rationalité individualiste. Et ça s'était produit en Russie. Et donc, je n'avais pas du tout la vision. C'était l'époque où tous les soviétologues ou tous les dissidents avaient la vision d'une Union soviétique totalitaire et inerte. Et quand on est démographe, eh ben, la démographie me donnait la vision d'une mortalité infantile qui se dégradait et puis de populations qui étaient en évolution psychologique, intellectuelle rapide. C'est la même chose d'ailleurs pour les printemps arabes. C'est la chute de la fécondité, c'est le même modèle en fait. C'est la chute de la fécondité dans le monde arabe qui, au moment même où tout le monde disait. Donc à l'époque, c'était Homo Sovieticus. Homo Sovieticus est là pour l'éternité. Ensuite, c'était Homo Islamicus, et là pour l'éternité. Puis quand on voit la fécondité qui s'effondre aussi, putain, Homo Sovieticus et Homo Islamicus, ils ont l'air de plus se comporter de la même manière au lit. Hein. Il faut attention, c'est autre chose.
J'ai bien compris que ce qui a présidé à la rédaction de la chute finale...
Mais j'écris beaucoup de choses. Il y a même dedans, dans le bouquin, il y a une analyse de l'évolution de la science-fiction soviétique où je montre, il y a un truc, genre un paragraphe qui s'appelle « Les martiens deviennent méchants » et où je montre que l'optimisme conquérant de la première science-fiction soviétique est remplacé par des rapports avec les extraterrestres qui deviennent extrêmement problématiques et incompréhensibles. Et je me suis dit, ça, c'est une projection, la projection d'une Russie qui ne sait plus trop où elle en est. C'était bien vu, hein?
C'était bien vu, mais je voulais savoir aussi si, au-delà de la volonté d'agacer ou de titiller votre ami Alexis, il y avait une forme d'insolence ou de revanche ou de colère à l'égard du communisme ou quoi que ce soit qui a présidé à la rédaction de la chute finale.
Ouais, enfin, c'était pas très profond. Ça m'avait énervé de repasser le rideau de fer dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'était encore. Les Hongrois pouvaient sortir de temps en temps des milieux privilégiés, mais c'était pas garanti. Et dire au revoir, je me souviens très bien que dire au revoir sur le quai de la gare à Budapest, sans savoir, peut-être c'est ce moment-là, je suis devenu quand même un peu anticommuniste sur les bords. Ça m'a pas plu. Mais ça n'a jamais été extrêmement profond ou obsessionnel.
Comment l'ouvrage il est perçu à sa sortie? Ça fait du bruit?
Oui, c'est-à-dire ça a été, surtout pour moi qui étais étudiant à l'époque, c'était juste absolument incroyable, parce que le livre a été dans l'ensemble assez bien reçu, pas par l'humain, hein, mais ça a été bien reçu, mais ça a été reçu comme les gens l'ont pris pour un pamphlet. D'un côté, j'avais Raymond Aron, trop content de voir le petit-fils de son copain Nizan, dézinguer le communisme. Donc Aron m'a soutenu, puis il y en avait plein comme ça. Et puis c'était l'époque où, de toute façon, tout le monde était en train de basculer dans la seule spécificité du livre, c'est que le livre ne prenait pas le communisme au sérieux. Et puis il disait, non, ils sont foutus les mecs, faut pas s'énerver. Ce qui est pas très anticommuniste comme habitude. En fait, c'est pas du tout la haine. C'est genre, non, faut se détendre là. Faut se détendre, c'est pas... Ça va passer. Mais pour les gens, c'était un pamphlet, et j'étais très vite... Même pour Revel, qui avait publié le livre, c'était un pamphlet, c'était une façon super vicieuse.
Chancel, qui vous reçoit à Radioscopie, parle de pamphlet aussi.
Et moi, j'étais extrêmement énervé, parce que c'était toujours sur mes histoires démographiques. Et moi, je disais non, je pensais que j'avais découvert ce qui allait se passer. Et donc, en fait, j'étais d'un côté, j'étais super content d'exister. C'est très surprenant de se mettre à exister.
Emmanuel Todd, d'ailleurs, quand on réécoute vos premières interventions radio, vous avez 25 ans, on ne vous sent pas du tout timide à ce moment-là?
J'en ai réécouté, j'étais stupéfait. Le seul truc qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que j'avais un parler vachement bourgeois. C'est ça qui m'a surpris. Ça m'a surpris. Et j'en ai parlé depuis à ma femme, qui est fille de paysan nivernais, mon épouse actuelle, parce que je fais une carrière matrimoniale discutable. Donc je lui dis ça, je dis oui, j'étais très surpris, j'avais parlé super bourgeois. Elle me dit mais toujours. Bon ça je sais pas, mais c'est vrai, ça m'a surpris. Mais ça, c'est, je pense que c'est un truc de conviction d'avoir raison sur le fond. C'est-à-dire que même si on est timide, si on n'est pas à l'aise avec la langue française, et si on a vraiment le sentiment qu'on a trouvé un truc important et irréfutable, c'est la vraie force. C'est le truc où on peut dire les trucs et puis on n'a plus peur de la façon dont on le dit, on n'a pas le sentiment qu'on doit bidouiller. Bon, j'étais un peu gêné de jamais avoir été en Russie. Je dois avouer que c'était un petit souci de ne pas parler un mot de russe et d'avoir jamais été en Russie. Je reconnais que ça me préoccupait un peu, je voulais pas trop que ça se remarque. Mais en fait, c'est tous les mecs qui parlaient russe et qui avaient été en Russie qui se sont plantés.
Et d'ailleurs,
c'est pour ça que j'hésite à aller visiter les pays dont je parle maintenant, parce qu'on n'est jamais trop sûr. C'est ce que mon père appelle le terrorisme du vécu. C'est-à-dire qu'il est grand journaliste, qui a beaucoup, qui dit que si on va dans un endroit, ben on est influencé par l'ambiance, on se prend d'affection pour les gens au milieu desquels on est, et finalement on voit moins la réalité. Alors qu'avec une réalité reconstituée par des statistiques démographiques, on est tranquille.
Même si je fais une incise, puisque Emmanuel Todd, je reviens sur donc la sortie de la chute finale. Quand quelques années passent, même si vous aviez estimé entre 15 et 30 ans la chute finale de la sphère communiste, de la sphère soviétique, quand je ne sais pas, moi, en 79-80, quand l'URSS envahit l'Afghanistan, est-ce qu'on ne se dit pas, mince, si ma prédiction était fausse, si je m'étais trompé quelque part?
On se pose la question, mais là, je me suis battu, j'ai fait quelques articles, je ne sais plus dans quelle revue, c'est qui ont été publiés dans des rééditions où j'expliquais que j'interprétais l'entrée de la Russie, de l'Union soviétique en Afghanistan comme un signe d'affolement du système qui cherchait à l'extérieur la solution à ses problèmes internes, modèle que j'ai appliqué au système américain au moment de la guerre d'Irak. Parce que c'est toujours pareil, c'est des modèles historiques d'une certaine banalité. Je veux dire donc, mais ça devenait juste inaudible. Et si vous faites une prédiction du genre, c'était quoi? J'avais dit 10, 20 ou 30 ans. J'avais 25 ans. J'allais quand même pas passer les 30 ans qui venaient à attendre l'effondrement du système soviétique. Ça aurait été un peu quand même... un peu... Et donc après l'invasion de l'Afghanistan, je suis passé à autre chose et puis je suis tombé sur ce deuxième truc qui était le rapport de l'idéologie aux systèmes familiaux, qui était totalement contradictoire d'ailleurs avec le modèle sur la Russie, puisque c'était d'expliquer pourquoi la Russie était devenue communiste. Et là, je suis passé dans autre chose. Et quand le système communiste s'est effondré, c'est pas clair que j'y croyais encore. Et la personne qui m'a dit « ça bouge », vous allez voir, vous allez rire, c'est Bernard Guetta, qui était correspondant je ne sais où, peut-être à Moscou, qui voyait les mecs autour de Gorbatchev. Donc on avait été dîner chez lui, il habitait rue des Colonnes à l'époque. Et donc il était au contact, et il me dit « Non mais tu sais Mano, diminutif quoi, ça bouge là-bas. » Je dis « Arrête. » Donc moi j'ai prédit l'effondrement du système, mais c'est Bernard qui l'a vu venir, à la dernière minute. Chacun son métier, hein.
Je voulais revenir, on a basculé en 91, je voudrais qu'on revienne en 76 au moment de la sortie de l'ouvrage. Juste rappelez-moi, vous me dites que, et je tombe pas de ma chaise, que l'humanité a moyennement ressenti l'apparition de l'ouvrage.
Je crois que sur la chute finale, ils ont rien fait.
Ils n'ont rien fait.
Le suivant, Le Fou et le Prolétaire, ils ont fait un article qui s'appelait Un délirant bricolage théorique. Mais j'ai pas le souvenir qu'ils aient fait quoi que ce soit sur la chute finale. Je me souviens pas.
En parlant du Fou et le Prolétaire, qui sera votre second ouvrage, qui paraîtra en 79, vous avancez un petit peu dans le temps. Je voudrais déjà revenir Ben justement, sur ce qui suit les quelques mois et années qui suivent l'apparition de la chute finale, après un tel ouvrage, après, même si la prédiction ne s'est pas encore réalisée à ce moment-là, on s'attend quand même à ce que vous poursuiviez, que vous enchaîniez une carrière de chercheur. Et là, on se rend compte que ben, vous décidez, l'année qui suit, de rejoindre le journal Le Monde en qualité de critique.
Ah non, j'ai fait une carrière de reporter international d'une semaine à l'Express.
Ça m'avait échappé.
J'avais été engagé au service truc, mais manque de bol, mon père a été pris comme numéro 2 après. Et donc honnêtement, travailler sous les ordres de mon père, je le sentais pas trop. Et puis j'étais, on m'avait envoyé à Bologne. Il y avait un congrès sur la répression où les gauchistes italiens allaient provoquer. Le PCI, ça m'a beaucoup. Je vois des trucs quand je me souviens, j'avais été très intéressé par la vision du PCI, qui était très libérale en théorie, mais qui, à côté du PCF que je connaissais, et qui était pauvre et bordélique, qui était une formidable machine, je m'en souviens très bien. Mais on m'avait envoyé là-bas en me disant 2 pages, je suis rentré, le mec me dit, il n'y a pas eu de mort, 1 page. Alors et ben, là, je me suis dit non, je ne vais pas vivre comme ça.
Il y a quand même eu une volonté à un moment de rejoindre une carrière journalistique.
Non, je savais pas. J'étais coupé de tout. Donc j'avais un doctorat de Cambridge. C'est le titre le plus élevé dans le monde anglo-saxon. Et Cambridge n'est pas une mauvaise université, même s'ils ont perdu un rang ou deux récemment, ce qui n'a aucun sens. Je me sentais pas de passer la grègue. J'étais en l'air. J'avais sorti un livre. J'avais fait une sortie de trajectoire. Je savais plus où j'étais dans le système français. Donc, je valais rien dans le système français sur le plan académique. C'était terminé. Sans le savoir, je savais pas, mais c'était terminé. En plus, c'était un péché à l'époque de faire un livre si jeune, sur un sujet qu'on était censé pas connaître. Et puis, j'ai commencé à faire des articles pour Le Monde des Livres, grâce à Leroy Ladurie, qui m'avait présenté à Jacqueline Piatier. Et donc, j'ai commencé à. Donc, à un moment donné, j'ai dû choisir entre cette carrière journaliste internationale à l'Express et puis critique au Monde des Livres. Mais moi, j'aurais été incapable de faire du journalisme international très longtemps. J'ai eu peur en avion. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas. J'ai arrêté d'avoir peur en avion quand, en tant que démographe, j'ai vu que vraiment les risques endogènes produits par mon propre organisme étaient supérieurs de très loin aux risques de l'avion lui-même. Donc maintenant ça va en avion, parce que j'ai peur tout le temps. Mais alors qu'au monde des livres, bah, je me suis retrouvé, ça m'a énormément apporté, parce que j'ai dû lire encore de l'anthropologie, de l'histoire. J'étais pigiste mensualisé. Donc je faisais des articles et puis je distribuais des papiers à faire à d'autres. Et puis on se marrait, c'était l'époque de Poirot Delpech, on avait des déjeuners, je crois que c'était le mercredi, je crois, hurler de rire. Donc je suis devenu critique littéraire, mais critique littéraire niveau universitaire, quoi. Donc j'ai lu plein de trucs. Je crois que les gens, fondamentalement, n'imaginent pas à quel point j'ai lu. C'est vraiment, je crois, c'est le. Je pense que le malentendu fondamental est là.
Et c'est pas antinomique puisqu'au même moment, vous dirigez aussi une collection chez Robert Laffont.
C'est Georges Liébert, qui a été longtemps mon éditeur, a succédé à Revel comme directeur de la collection Liberté 2000. Et puis, Georges, qui est un ami, hein, toujours, m'avait pris en affection, puis m'avait pris comme co-directeur de cette collection-là. Mais j'étais juste trop nul comme éditeur. Donc, j'ai fait 2 trucs bien, dont je me souviens. J'ai fait faire une traduction d'un bouquin de Christopher Lasch. Ça, je me suis dit, rétrospectivement, j'en suis content. Et puis, j'ai commandé à un copain de l'INED, Jean-Claude Chenet, une histoire de la violence, qui est un grand bouquin qui est sorti là. Mais à part ça, j'étais juste pas doué pour l'édition. D'abord parce que j'ai toujours des problèmes relationnels avec les gens, que j'aimais pas déjeuner avec les gens. Et puis surtout, je pense que j'ai pas assez d'intérêt pour le travail d'autrui. C'est-à-dire, je pense que.
Vous venez de me parler de l'amour de la lecture
Oui,
qui a
mais.
été le vôtre toutes ces
Oui, mais
années.
le gros de ce qu'on lit, en fait, des livres importants, il n'en sort pas tous les ans. Le gros de ce. D'abord, ce qu'on lit, c'est des choses qui sont déjà publiées, qui ont déjà été triées par le temps. Les trois quarts de ce que je lis, c'est des livres de gens qui sont déjà morts, en fait, si on peut dire, ou bien avancés dans leur carrière. La découverte de talents, c'est-à-dire avoir un œil frais, le genre de travail que fait Rosan Vallon, par exemple. Rosan Vallon, qui lui-même, d'ailleurs, m'a fait faire la note
On en
Chirac,
reparlera évidemment.
voilà, et qui, lui, qui a son œuvre, mais qui a en plus l'énergie de s'intéresser à ce que font les autres, comme Furet d'ailleurs avant lui. J'admire énormément ça, mais je dois dire que c'est un don que j'ai pas du tout. C'est-à-dire, je suis très. C'est pas être borné, c'est pas être égoïste, c'est peut-être. Ou si, enfin, je sais pas. Mais donc. Et j'ai même pas enseigné. Donc j'ai le regret de pas avoir enseigné. De ne pas avoir transmis en un sens intellectuel, d'avoir été trop juste dans mes trucs.
Mais justement, vous parlez de l'égoïsme, pas tout le temps. Vous devenez, il y a quelque chose d'important qui se passe dans ces années-là, Emmanuel Todd. Vous devenez père en 78. Alors, je voulais juste, sans rentrer trop dans l'intime, mais je voulais savoir quand on s'intéresse d'aussi près aux structures familiales, qu'est-ce que ça peut changer de devenir soi-même père de famille?
Je ne vais pas en parler parce que les enfants doivent d'abord être respectés. Mais pour moi, moi j'ai eu quatre enfants, ce qui est quand même pas mal pour ma génération. Je dirais dans des conditions matrimoniales difficiles, puisque les mères sont enfin, il y a trois mamans différentes. Enfin, les rapports peuvent être houleux. Tout n'est pas. Il y a des moments. Mais je pense que j'ai eu trop de chance avec mes gosses. Parce que j'ai en fait quatre gosses super brillants. Mais c'est tout ce que je peux dire.
Non,
C'est tout ce
j'entends
que je peux
bien.
dire.
J'entends bien.
Non, le seul truc, c'est quand mon aîné, David aîné, le seul souvenir que j'ai, c'est que dès qu'il est né, j'ai commencé à être obsédé par la mort. C'est-à-dire, c'est un effet d'automatisme. Et c'est le fait de voir arriver quelqu'un qui n'existait pas, ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, c'est ce que je trouve surprenant quand on a un premier enfant. Il n'y avait personne, et puis il y a quelqu'un. Et donc, du coup, on se dit, bah, il y a quelqu'un, et petite, après, il n'y aura personne. Donc, ça, je me souviens très, très bien. C'est
Très
le
bien.
moment, je me souviens que c'est le moment où j'ai commencé à écouter de la musique du groupe Genesis, dont je suis resté fan.
La genèse, l'ombre, la lumière aussi, c'est la métaphore qu'a choisie Jack Lang pour parler de mai 81, le passage de l'ombre à la lumière. Alors on évoquera cette période demain,
Pas dans
Emmanuel
les termes
Todd.
de Jack Lang, hein, j'espère.
Libre à vous, libre à vous. Ce passage de l'ombre à la lumière, pour vous, c'est aussi ce que vous appelez une entrée dans le Moyen Âge, puisque c'est ainsi que vous qualifiez, et ce qui n'a rien à voir avec l'arrivée de François Mitterrand, mais c'est ainsi que vous qualifiez vos relations avec l'université française. Mais de tout ça, nous en reparlerons demain. Merci beaucoup, Emmanuel Todd.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sébastien Petitot avec Emmanuel Todd. À voix nue. Prise de son, Éric Audra. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Attachée de production, Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.